Radio Tamani, voici nos informations en français.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 24 février 2020, les titres. Négocier avec les chefs terroristes Iyad Agali et Amadou Koufa, une décision diversement appréciée par les experts du Sahel. Si certains adhèrent à l'initiative, d'autres craignent qu'elle ne soit une source de renforcement de l'État islamique au Sahel. Région de Mopti, Boubou Cissé demande la suppression de toutes les positions des milices dans cette zone. La milice de Gondana Massagou conditionne son départ à la présence de l'armée malienne dans les zones qu'elle contrôle. Élections législatives, Studio Tamani renforce les capacités de ses agents et correspondants pour la couverture des législatives du 29 mars prochain. Fatmata Togola à la présentation. Le président du Mali a confirmé il y a quelques semaines son intention de négocier avec les chefs terroristes Iyad Agali et Amadou Koufa. Cette décision est diversement appréciée par les experts du Sahel. Si certains, comme Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, adhèrent à l'initiative, d'autres craignent qu'elle ne soit une source de renforcement de l'État islamique au Sahel. Mais reportage Maliki Diallo avec la voix de Mariam Meiga.
Pour Nicolas Normand, spécialiste du Sahel et ancien ambassadeur de la France au Mali, négocier avec Amadou Koufa et Iyad Agali peut apaiser les tensions dans le centre et dans le nord du Mali. Le diplomate français propose même l'ouverture du dialogue à d'autres terroristes.
C'est une bonne chose de l'avoir lancé parce qu'à la limite, il faut quand même se parler, en tout cas avec les Maliens et entre Maliens, c'est important. S'il y avait des canaux de discussion plus ouverts avec d'autres composantes des groupes que seulement les chefs, ça pourrait être fructueux. On a quand même des expériences dans ce domaine, au Niger, en Mauritanie, mais il s'agit quand même d'un processus de repenti. Il ne s'agit pas de faire des concessions terroristes.
Bakary Samb, spécialiste des questions sécuritaires dans le Sahel et directeur exécutif de Tombouctou Institute, pense le contraire. Pour lui, Iyad Agali et Amadou Koufa ne sont plus les maîtres du jeu et des négociations pourraient renforcer l'État islamique au Grand Sahara.
Amadou Koufa n'a pas la même stature politique et la même légitimité qu'un Iyad. Son groupe est en train de se fissurer. Les éléments qui étaient à la base de sa légitimité sont en train de s'en départir pour rejoindre l'État islamique. L'État islamique risque de gagner en termes d'ancrage social. L'autre aspect, c'est qu'on a pris le risque de positionner Iyad comme l'interlocuteur incontournable, ça y est, en lui rajoutant une certaine légitimité. Mais on n'est pas sûr qu'il souscrira à la paix et que de l'autre côté, nous sommes en train de livrer des éléments entiers qui étaient dans les groupes locaux à l'État islamique au Grand Sahara.
Avant cette annonce du président de la République, son haut représentant pour le centre avait confirmé l'envoi des émissaires auprès de Iyad Agali et Amadou Koufa. Toutefois, des partenaires du Mali dans le combat contre le terrorisme ne partagent pas cet avis.
Le chef d'Amnesty International Afrique de l'Ouest estime que la situation des droits de l'homme devient désastreuse de jour en jour dans le Sahel. Pour Aliou Tine, le deuxième massacre d'Ogossagou pouvait être évité si les dispositions sécuritaires avaient été mises en place afin de sécuriser la population. Aliou Tine, chef d'Amnesty International Afrique de l'Ouest, au micro de nos confrères de Mikado FM.
La situation des droits de l'homme, il faut être sincère, c'est vraiment lamentable. Et c'est ces massacres de masse qui se répètent. Et c'est la répétition qui fait problème. Parce qu'après Ogossagou 1, ça a soulevé une indignation universelle. Si, effectivement, on avait traité comme ça devait se faire Ogossagou 1, il n'y aurait pas eu de Ogossagou 2. Mais il faut voir ce que ça révèle. Le fait qu'on ait Ogossagou 2, 1, c'est parce qu'il n'y a pas impunité. Pourquoi on n'a pas eu la possibilité de juger, d'enquêter et de faire jaillir la vérité pour que quand même les responsables présumé puisse être jugé et puni. Et que ça n'ait pas lieu, c'est parce qu'effectivement, il y a des failles. Il y a la faille administrative. Mais la faille, effectivement, qui, si vous voulez, subsume l'ensemble des autres failles, c'est la faille sécuritaire. Et la faille sécuritaire, c'est à la fois du côté des FAMA. Et la gendarmerie a pu être sur place et puis a pu arrêter effectivement une personne sur place. Donc, on pouvait éviter de Ogossagou 2.
Retrouvez nos informations sur nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Le Premier ministre demande la suppression de toutes les positions des milices dans la région de Mopti. Cette annonce de Boubou Cissé a été faite ce week-end lors de sa visite de deux jours dans la zone. La milice de Gondana Massagou conteste cette décision. Elle conditionne son départ à la présence de l'armée malienne dans les zones qu'elle contrôle. Aminata Diallo.
Cette demande du Premier ministre fait suite à l'attaque d'Ogossagou dans le cercle de Bankas qui a fait une trentaine de morts. Selon Dr Boubou Cissé, ces checkpoints ont été installés sans autorisation. La milice d'Anna Amasagou a répondu à cette décision du gouvernement dans un communiqué. Selon les responsables du groupement, il s'agit par ces postes de sécuriser les populations de toutes les ethnies se trouvant dans la région. La milice d'Anna Amasagou, dans ses communiqué publié dimanche hier, conditionne l'enlèvement de ces checkpoints à la présence de l'armée malienne dans la zone. Cependant, l'avis diverge sur la présence de ces milices dans la région. Si pour les uns, elles sont là pour la sécurité, pour les autres, les individus qui sont au niveau de ces postes abusent des passants. Selon des informations, ils demandent de l'argent aux passagers à chaque poste de contrôle. Une accusation qui a toujours été rejetée par Dana Amasagou.
Studio Tamani renforce les capacités de ses agents et correspondants pour la couverture des élections législatives du 29 mars prochain. Cette formation qui a commencé aujourd'hui est une série qui va se poursuivre à l'intérieur du pays. Maliki Diallo.
Comme à la présidentielle de 2018, Sidio Tamani promet une couverture intégrale et en direct des élections législatives du 29 mars prochain. Les préparatifs pour la réussite de l'opération vont bon train. Une série de formations des agents a débuté aujourd'hui à Bamako avec une vingtaine de journalistes qui vont s'imprégner de la charte électorale de Sidio Tamani. Issa Fakaba Sissoko, rédacteur en chef de Sidio Tamani.
Cette charte électorale est un rappel des principes élémentaires du journaliste de façon générale et en période électorale. Et dans cette charte, nous expliquons à nos agents, à nos correspondants, le comportement du journaliste lorsque nous sommes dans un contexte d'élection. La vérification de l'information, l'équidistance avec les hommes politiques, le refus des cadeaux des hommes politiques et l'information claire, équilibrée au service des populations.
Tous les journalistes de la rédaction à Bamako et la cinquantaine de correspondants à travers le pays seront formés à l'occasion des 4 ateliers de 3 jours avec des espère. Issa Fakaba Sissoko, rédacteur en chef de Sidio Tamani.
Et après cette étape, il est prévu la couverture de la campagne électorale, mais aussi la couverture du jour du scrutin. Et le jour du scrutin, la grosse opération, c'est l'ouverture de l'antenne de 8h à 19h. Et localité par localité, nous ferons vivre le déroulement des opérations du vote de Kaye à Kidal grâce à l'appui de nos correspondants. Et le soir, il y aura un débat de débriefing des opérations de vote.
Plus d'une soixantaine de radios partenaires seront synchronisées à Sidio Tamani pour faire vivre en temps réel le déroulement des législatives sur l'ensemble du territoire national.
Sidio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, les échos de nos régions. 3 femmes ont été violentées de 2016 à nos jours par des présumés terroristes dans la commune de Toubakoro, cercle de Banamba. Cette information est de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. En visite dans la localité depuis la semaine dernière, la CVJR entend recenser les victimes de la crise afin de prendre des dispositions pour les dédommagements. On a noté que des centaines de victimes d'enlèvements, de viols, de tueries, entre autres, seront aussi entendues. Le samedi dernier, le village de Anagadia, dans la commune de Madougou, cercle de Koro, a été attaqué par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, le bilan serait d'un mort et d'un blessé. Le calme serait revenu dans la ville. Le village de Tonka, situé dans le cercle de Gundam, a été de nouveau attaqué. Des bandits armés non identifiés ont incendié l'école du village hier soir. Cet incident intervient après une attaque survenue samedi dernier, toujours dans le village de Tonka, aux environs de 16 heures. Une personne a été tuée et des moutons ont été calcinés. Restez avec nous pour le grand dialogue avec Ibrahim Aran Diallo. Bonsoir.
Bonsoir Fatmata Togola.
Alors, de quoi allez-vous parler ce soir?
Les inégalités socio-économiques au Mali, quel impact sur le développement? C'est ça donc le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités sont Kadari Traoré, il est le directeur général du Centre d'études pour le développement en Afrique, CEDA. Boubacar Bougoudogo, il est chercheur au GRIT. GRIT, c'est le groupe de recherche et d'études en économie appliquée et théorique. Et enfin, Modibo Mao Makalu, il est économiste.
Merci Diallo et bon débat. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine.